en la parole de Dieu, parce que la Bible est inspirée de Dieu. C'est pas juste un livre humain, mais c'est vraiment un livre qui vient de Dieu, inspiré de lui. C'est le souffle de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entendre la prédication de la parole de Dieu. Donc, on veut pas juste écouter comme on écoute un film, comme on écoute la radio ou la télévision. On veut vraiment écouter avec les oreilles du cœur, et on veut être capable de voir les choses avec les yeux de l'esprit. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on aime dire ici? C'est ceci. Parce que la Bible dit que qu'est-ce que tu dis avec ta bouche et que tu crois dans ton cœur, ça accomplira. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez juste lever votre Bible dans l'air ou votre feuille avec les versets. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole inspirée de Dieu. Je serai jamais plus pareil. Et je serai pour toujours changé. Amen, amen, amen. Donc, ce matin, je vous invite à aller avec moi à Jean chapitre 13. Et nous allons parler de quelque chose de bien important. La semaine passée, on a terminé notre série sur comment marcher avec Dieu. Et vous vous rappelez que la base de cette série, c'était suite à quelque chose que nous avons eu dans la prière il y a déjà presque 2 mois, quand on a ressenti dans notre cœur ces phrases qui venaient de l'Esprit Saint, marcher par la foi, marcher selon l'Esprit et marcher dans l'amour. Tout le monde dit marcher par la foi, marcher selon l'Esprit et marcher dans l'amour. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'importance de marcher dans l'amour de Dieu. On a dit qu'il est impossible de marcher avec Dieu sans marcher dans l'amour. Mais aujourd'hui, nous allons voir un peu plus à fond comment marcher dans l'amour. Et nous allons voir, en fait, le titre du message, c'est « La preuve suprême de l'amour ». La preuve suprême de l'amour. Et c'est important qu'on comprenne, parce qu'il y a un verset que nous allons lire pour débuter, vers la fin de chapitre 13, versets 34 et verset 35, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Est-ce que tout le monde est là? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit ceci. Il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Déjà, c'est un bon commandement, n'est-ce pas? Parce qu'il faut réfléchir, comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il nous a aimés sans compromis, il nous a aimés sans fin. On a vu toutes les choses la semaine passée. On voit vraiment jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Et Jésus a démontré son amour pour nous en disant même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, et Jésus donne le commandement. C'est pas une suggestion. Jésus n'a pas dit, si vous avez le goût, aimez-vous les uns les autres. Si ça vous tente, aimez-vous les uns les autres. Si ça vous dérange pas, aimez-vous les uns les autres. Si vous n'êtes pas fâché, aimez-vous les uns les autres. Si personne vous a offensé récemment, aimez-vous les uns les autres. C'est pas comme ça que c'est marqué. Non, 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 c'est pas comme ça. c'est bon. Merci, Thérèse. Aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas marqué si vous avez de l'amour pour moi, mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc on sait que une nouvelle saison commence pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que chrétiens. Il y a une saison de la moisson, et c'est un temps de augmenter, c'est un temps de voir plus dans le Seigneur, c'est un temps de voir davantage des âmes venir à Jésus. Mais comment est-ce que les âmes vont venir à Jésus? Est-ce que c'est parce que nous avons de la belle peinture sur les murs? Non, ça peut aider à pas nuire. Hein? Ça peut aider quand ils rentrent, ils vont pas dire, hey, c'est dégueulasse ici, ils vont dire, oh, c'est une belle place. Mais c'est pas la peinture sur les murs qui va attirer le monde à Jésus. C'est quoi qui va les attirer? C'est notre amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Et là, si c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui est vraiment, on pourrait dire, et je pense que je l'ai marqué même dans vos notes, première chose, c'est que l'amour est la marque par laquelle le monde nous reconnaîtra comme étant ses disciples. Et si l'amour, c'est la marque qui va nous distinguer, si l'amour, c'est la marque qui va nous étiqueter, c'est ça? Ouais. Vous l'avez dit mieux que moi. Vous avez bien compris. Le but ici, c'est la communication. Si l'amour, c'est la marque, moi, je me suis dit, ça vaut la peine de découvrir comment on peut démontrer, comment on peut prouver. On veut savoir c'est quoi la preuve suprême de cet amour. Amen? Et pour répondre à cette question, on va aller voir en Jean chapitre 13, on va voir le contexte de chapitre 13. Parce qu'on a déjà lu que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça c'est un verset que beaucoup de chrétiens peuvent citer, mais ce verset se trouve au milieu du chapitre, ou vers la fin du chapitre 13, et si on regarde le contexte de ce chapitre, ça va nous donner encore plus de lumière et de révélation sur la preuve suprême de l'amour. Verset 1 de chapitre 13. Et moi je vais lire ceci dans la parole vivante et dans vos notes, parce que je trouve que c'est tellement beau. C'était juste avant la fête pascale, Jésus, que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient dans ce monde. Il voulait donner aux siens qui restaient dans ce monde une preuve suprême de l'amour. Tout le monde dit une preuve suprême de l'amour. Intéressant, n'est-ce pas? Dont il les avait toujours aimés. C'était au cours du repas pascal. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas de Cariote, fils de Simon, le dessein de trahir son maître et de le livrer. Verset 3. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Sachant tout cela, soulignez cette phrase, sachant tout cela, vois-tu, Jésus était connaissant de plusieurs choses. Lors de cet événement, il y avait un couple de pensées qui roulaient, on pourrait dire, dans son esprit ou dans sa tête même. On peut voir dans ce verset que Jésus était conscient que Judas était déjà influencé et infiltré par le diable et que Judas était sur le point de le trahir. Il était au courant. Et il était également au courant du fait que bientôt il allait retourner vers le Père et retrouver sa place de gloire et d'honneur avec Dieu le Père. Donc, ce sont les deux choses qu'il avait dans son cœur. Je vais bientôt être trahi, mais bientôt je serai encore de nouveau dans la gloire avec mon Père. Et c'est important de savoir que ces deux pensées, ces deux choses étaient vraiment, on pourrait dire, les premières pensées qu'il avait lors de cet événement. On va continuer ici. Encore verset 3. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Verset 4. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qui noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destiné aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il allait nouer autour de sa taille. Quand vient le tour de Simon-Pierre, celui-ci proteste. « Toi, Seigneur, il est toujours en train de protester, hein? Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant, tu le comprendras par la suite. » Mais Pierre lui réplique, « Toi, me laver les pieds, à moi, jamais de la vie !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Dans ce cas, lui dit Simon Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Il est toujours dans l'extrême, n'est-ce pas? Jésus lui dit, celui qui vient de se baigner est entièrement propre. Il n'a plus besoin de se faire laver sauf les pieds. Or vous, vous êtes propres, malheureusement, pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, malheureusement, pas tous. Après leur avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements et se rassit à table. Alors, il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Tout le monde dit, « Il est. » Il est maître, il est seigneur. En effet, si donc, en étant que maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez désormais, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, tout le monde dit c'est à mon tour, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni le messager plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. Voulez-vous être heureux dans votre vie chrétienne? Maintenant, vous savez quoi faire. Maintenant, nous avons déjà vu que la marque, vraiment, de notre vie chrétienne, l'amour de Dieu, c'est la marque par laquelle le monde va nous reconnaître comme étant ses disciples. Mais qu'est-ce que nous voyons? La deuxième chose dans vos notes, c'est que la preuve suprême de l'amour, c'est de se laver les pieds les uns aux autres. Se laver les pieds. Tout le monde dit se laver les pieds. Alors donc, quand je dis qu'il faut se laver les pieds pour démontrer notre amour suprême, c'est intéressant, n'est-ce pas? Je pensais que c'était la mort sur la croix qui était la marque suprême, la preuve suprême. Oui, ça fait partie de se laver les pieds. Amen. Parce que quand la Bible dit, et quand Jésus dit qu'il faut se laver les pieds, ce n'est pas juste l'acte de prendre de l'eau et de prendre les pieds sales et d'enlever la boue et d'enlever les autres choses qui étaient sur les pieds, qui étaient importantes. C'est qu'est-ce que ça représente. Amen. C'est toute l'attitude en arrière de cet acte. C'est toute la signification de se laver les pieds. Je sais qu'il y a certaines dénominations que eux autres, ils ont pris ces paroles vraiment littérales, et eux autres, ils ont mis le lavement des pieds au même niveau que la Sainte Cène ou le repas du Seigneur, et eux autres, ils vont au moins une fois par année, tout le monde va enlever les bas et les souliers, et ils vont se laver les pieds littéralement. Mais laissez-moi vous dire, je ne crois pas que c'est ça que Jésus veut qu'on fasse. Amen. De un, je ne suis même pas sûr que vous aimerez ça. Hein? On pourrait le faire. Moi, je l'ai déjà fait même. J'ai déjà assisté à quelques réunions où les gens... Et c'était bon parce que c'était inspiré de l'Esprit. Mais je ne pense pas que Jésus voulait faire une doctrine de se laver les pieds, là. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Il voulait qu'on apprenne à démontrer la preuve suprême de notre amour les uns pour les autres. Amen. Et on va voir tantôt qu'est-ce que cela signifie. On va voir comment aujourd'hui, dans l'an 2003 et 2004 qui s'en viennent, comment on peut se laver les pieds les uns aux autres, même si on est tous chaussés. Amen. Et c'est ça que Jésus veut. C'est ça qu'il veut. Donc, si on peut continuer même dans vos notes, on va voir juste aujourd'hui trois choses. Parce que, je pense qu'on voit trois choses qui représentent la signification de qu'est-ce que Jésus a fait et trois principes que nous pouvons appliquer dans nos vies personnelles et dans notre vie quotidienne à tous les jours. Aujourd'hui, presque tout le monde se promène avec des belles chaussures, les bottes, et nos pieds ne sont pas si sales que ça, j'espère. Aussi longtemps que vous prenez une douche, un bain comme il faut, Je pense pas que vos pieds vont être si sales comme ça. Mais à l'époque, n'oubliez pas une chose, que tout le monde se promenait avec les sandales dans les rues qui n'étaient pas pavées, mais où des fois il y avait juste les pierres comme pavement, mais souvent les rues, les routes étaient en poussière, et quand la pluie tombait, c'était de la boue. Et même quand la pluie tombait pas, c'était de la poussière en masse, et puis il y avait aussi pas de char, pas de camion, pas de Toyota, pas de Chevrolet, pas de Ford. Ils avaient des chameaux et les ânes. Et les chameaux et les ânes laissaient les cartes d'appel partout dans la rue. Et si on jase avec notre ami, c'est comme un véritable champ de mine, hein? Il faut faire attention. Faux! Oups! Secouez le pied un petit peu, hein? Essayez de faire plus attention la prochaine fois. Mais quand on arrive à la maison de quelqu'un, si on arrive chez quelqu'un qui est assez béni pour avoir les serviteurs, et c'est toujours le serviteur au plus bas rang qui a la job de laver les pieds des invités. C'est toujours, vraiment, c'est la job que personne désire avoir. C'est la chose le plus dégueulasse parce que il faut prendre le temps d'enlever les cartes d'appel. Et toute la poussière, toutes les autres, toute l'autre cochonnerie, si on peut utiliser un bon français, là, des pieds des invités. C'est pas de fun. Vous êtes d'accord? Qui aimerait avoir cette job-là? Pas moi. Mais Jésus est en train de le faire. Et je pense que la première chose que nous voyons, c'est que si nous allons pratiquer la preuve suprême de l'amour, première chose, ne pensez jamais être trop grand pour servir les autres. Ne pensez jamais être trop grand pour servir les autres. N'oubliez pas que Jésus avait deux pensées principales dans sa tête. Il pensait au fait que Judas allait le trahir. Mais c'est quoi l'autre chose qu'il pensait? C'est quoi l'autre révélation qu'il avait dans son cœur? La première chose, c'est qu'il savait que Judas allait le trahir bientôt. Mais il savait quoi? Qu'il était pour retourner chez le Père. Et que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains et que Dieu lui a donné le pouvoir suprême de l'univers entier. On ne parle pas de n'importe qui ici. On parle du roi de l'univers. Je veux dire le roi de l'univers. Et il savait. Il savait, je sais qui je suis. La plupart d'entre nous, si on aurait eu cette révélation, on aurait dit, tomber à genoux. Parce que je sais maintenant que c'est juste une question de temps, juste une question d'heure, et je serai assis sur le trône de l'univers. C'est à toi de me rendre hommage maintenant. C'est ça que nous aurons peut-être fait, n'est-ce pas? Mais au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher l'hommage, au lieu de chercher à être servi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné la preuve suprême de l'amour. Je sais qui je suis. Qu'est-ce que je vais faire avec mon pouvoir? Qu'est-ce que je vais faire avec ma puissance? Je vais servir mes disciples. Je les ai toujours aimés et maintenant je vais les prouver. Moi, le roi de l'univers, je vais faire la tâche le plus bas pour prouver que je les aime. Ça, c'est l'amour. Amen? Mais souvent, on pense, mais tu sais, mais moi, j'ai un appel sur ma vie. J'ai d'autres choses à faire. Ou moi, je suis quelqu'un d'important. Hey, je suis chef de l'entreprise. Ou je suis chef du foyer, hein. Souvent, on n'est pas chef ailleurs, mais on peut être chef chez nous. Il y a toujours quelqu'un qui veut être chef. Hein? Et c'est comme avec les enfants. Il y a toujours quelqu'un qui est plus grand. Donc, le plus petit, au moins, il peut être chef du chien. Au moins, le chien doit m'obéir. On cherche toujours à prendre notre place. Je suis grand. Je suis quelqu'un. Je suis important. Mais si vous êtes vraiment important, faites comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé ses vêtements extérieurs. Déjà, un acte d'humilité. Hein, il était dans ses sous-vêtements, dans le fond. Bon, je vais me déshabiller là. je vais prendre la serviette, je vais prendre le bassin, et c'est à moi maintenant d'aller laver les pieds de mes disciples. Ça, c'est le contraire de comment le monde pense, n'est-ce pas? Le monde dirait que, OK, Seigneur, assieds-toi, nous allons venir t'essuyer les pieds. Mais Jésus a dit, non, c'est à vous de vous asseoir. C'est pourquoi Pierre a dit, toi, me laver les pieds, jamais de la vie! Parce que Pierre avait du respect, c'était vraiment par amour, dans le fond, que Pierre ne voulait pas se faire laver les pieds par Jésus. Il voulait honorer son maître. C'est comme, non, 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 c'est pas à toi de me laver mes pieds. J'ai pas manqué la mine tantôt. Imagine. Tu sais qu'est-ce qu'il y a entre ses orteils? Et le roi de l'univers est prêt à laver ses pieds, ça serait un peu embarrassant, n'est-ce pas? Non, non, laisse faire Jésus, je vais aller m'en occuper moi-même. Tu es le maître. Mais Jésus a dit que si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'as aucun part avec moi. Donc, vois-tu, c'est comme réciproque. On a besoin de s'humilier et donner, mais on a besoin aussi de recevoir. N'est-ce pas intéressant, hein? Donc, continuons un peu ici. Regardons. Philippiens chapitre 2. Est-ce que ça nous fait penser un peu ce matin? Est-ce que vous êtes là? Bon. Paul a dit quelque chose d'intéressant en Philippiens chapitre 2. Il a dit, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité. Tout le monde dit humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Déjà là, si on pourrait faire cela, on éviterait 90% de tous nos problèmes. N'est-ce pas vrai? Et faites attention, parce que souvent on entend le message, je dis, ah oui, oh, si seulement quelqu'un, telle personne était là, je vais acheter la cassette pour lui. Non, non, non. Regardons pas les autres ce matin. Regardons pas les autres en disant, oui, eux autres devraient me considérer comme étant plus important. Non. Sondons notre cœur ce matin en disant, Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre comme Jésus? Est-ce que je suis en train de démontrer la preuve suprême de mon amour? Est-ce que dans mon cœur et dans ma vie, est-ce que je démontre que les autres sont au-dessus de moi? Et je sais que moi, j'ai encore de route à faire. Et probablement, il y a quelques autres, au moins une ou deux personnes ici présentes, qui ont besoin de faire un peu de route aussi. Amen? Mais sondons notre cœur ce matin. Soyons comme Jésus. Regardons. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Verset 4. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. C'est-à-dire que Jésus, dès le commencement, il était Dieu. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, en tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs paradoxes. Si on veut recevoir, il faut donner. Si on veut monter, il faut s'abaisser. Si on veut être grand, il faut devenir esclave. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Amen. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Je pense qu'on peut tous apprendre une leçon là, n'est-ce pas? Mais quiconque veut être grand parmi vous, Matthieu, on lit en Marc 10, dans vos notes, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est pas méchant de vouloir être grand, savez-vous? Mais c'est la façon par laquelle on veut se rendre grand. C'est notre définition d'être grand qui doit changer des fois. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous sommes pas au-dessus de notre maître. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Donc, première chose, ne pensez jamais être trop grand pour servir les autres. Deuxième chose, soyez prêts à faire les tâches ou les choses que personne d'autre veut faire. Je pense que des fois, il faut être pratique. Si on veut vraiment démontrer à quelqu'un qu'on les aime, on doit être prêt à faire les choses qu'on n'aime pas faire et que personne n'aime faire. N'est-ce pas vrai? Dans une famille, dans un mariage, par exemple, ça serait de fun si le mari et la femme feraient leur possible, chacun de leur côté, hein, de faire tout ce que l'autre n'aimait pas faire. Amen? Quand c'est le temps de faire la vaisselle, quand c'est le temps de nettoyer la toilette, quand c'est le temps de faire sortir le chien, de faire sortir la poubelle, quoi que ce soit, au lieu de dire, ben, c'est pas à moi, c'était à toi, on devrait dire, hey, laisse-moi le faire cette fois-ci. Amen? Je parle des choses pratiques. Oh, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie. Hein, souvent, c'est facile de dire, oh, je t'aime, je veux avoir des temps intimes avec toi, mais après, il faut que tu fasses la vaisselle, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et après ça, on va faire l'amour. Non, ça ne marche pas de même. Des fois, il faut qu'on fasse les choses qu'on n'aime pas faire pour prouver qu'on aime quelqu'un. Amen? Donc, je pense qu'on a tous besoin d'apprendre. Et je parle à moi-même aujourd'hui que nous avons, quand ça vient à l'Église, il y a des choses ici que, des fois, il y a des tâches qui sont plus agréables que les autres. Ça serait de fun, au lieu de dire, mais je sais pas qui va faire ça, d'avoir tout le monde dire, mais je peux le faire. Amen? Gloire à Dieu, on parle des choses concrètes aujourd'hui. C'est bien facile de dire, oh, je vais prêcher, oh, je vais chanter, oh, je vais jouer de la musique, ce sont toutes des belles choses. Mais des fois, il y a des choses qui sont un peu plus dégueulasses, un peu moins agréables, c'est qui va faire ça? Laisse-moi vous dire, je suis pas mal certain que quand on serait rendu au ciel, c'est pas forcément les prédicateurs, c'est pas forcément les musiciens qui vont avoir les plus grandes récompenses. C'est ceux qui ont nettoyé les chambres de bain. Amen. C'est ceux qui ont changé les couches dans la pouponnière. C'est ceux qui ont fait les choses que dans la forme personne d'autre voulait faire. Mais ça, c'est la vraie amour. Est-ce que je suis en train de dire que c'est pas important de prêcher? Non, c'est important. En fait, la Bible dit, hein, on voit les apôtres qu'ils ont dit que ça serait pas bon pour eux de quitter la parole et la prière pour servir aux tables, parce que s'ils quitteraient la prière et la parole, l'Église ne pourrait pas aller de l'avant non plus. Vous comprenez, il y a un équilibre ici. Mais même là, je pense qu'on devrait jamais être rendu à la place où on pense que je suis trop grand ou trop important pour faire cela. Amen? On doit être prêt à s'entraider, on doit être prêt à s'aimer pour vrai. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment est-ce qu'il nous a aimé? Il a lavé leurs pieds. Je pense qu'on a besoin d'un temps de réflexion, n'est-ce pas? C'est un peu silencieux aujourd'hui. C'est des belles choses qu'on voit dans la parole, n'est-ce pas? Romains 12, 16 dit ceci. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Donc, il y a rien dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas les tâches ou les responsabilités qui sont sans importance. Amen? Chaque chose est importante. C'est pourquoi je suis tellement reconnaissant pour ceux qui viennent et qui travaillent et qui font les choses qui, des fois, ne sont pas agréables. Et laisse-moi vous dire que ces choses ne sont pas oubliées par le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il voit ça. Et il voit, ça, c'est quelqu'un qui marche selon ma parole. Ça, c'est quelqu'un qui obéit à mon commandement. Voilà quelqu'un qui va être récompensé dans la vie et au ciel. Amen. Hallelujah. Luc 14, 7, dans vos notes, dit ceci. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est un principe biblique. Laissez-moi vous dire, prenez soin de Dieu, des affaires de Dieu, prenez soin du peuple de Dieu, servez les autres, et Dieu va vous donner les promotions. Et quand la promotion vient, vous serez honoré devant Dieu et les autres. Mais si on essaie nous-mêmes de dire, hey, regardez-moi, regarde qu'est-ce que je peux faire, regarde mes qualités, regarde mes dons, regarde, moi, je, quelqu'un va dire, désolé, mais peux-tu prendre la dernière rang? Ne servez pas seulement ceux qui peuvent vous bénir en retour. Est-ce que vous écoutez là? Ne servez pas seulement ceux qui peuvent vous bénir en retour. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Jésus l'a bien dit en Luc 14, 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes un dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Soulignez cette phrase, elle te sera rendue. Tout le monde dit, il me sera rendu. Encore, Dieu ne veut pas vous enlever quelque chose. Il te sera rendu. Mais pensez pas que la personne que vous servez va être à mesure de vous bénir en retour. N'oubliez pas, Jésus avait deux pensées dans sa tête lors de cet événement. Première chose, c'était quoi? Judas allait le trahir. Deuxième chose, il allait retourner vers le Père pour être encore glorifié auprès de son Père. Mais n'oubliez pas, Jésus, en sachant qu'il allait retourner vers le Père, il n'a pas dit « Je suis le chef, le grand chef, à genoux, serre-moi, donne-moi hommage. » Non, il s'est humilié, il a servi les autres. Mais il n'a pas arrêté non plus à Judas en disant, « Mais toi, le méchant, laisse-moi te dire qu'est-ce qu'on va faire avec toi. » Il n'a pas dit à tous les onze, « OK, on va aller le pendre maintenant. On va l'ôter d'ici. » Non! Qu'est-ce que Jésus a fait à celui qui était pour le trahir? Il a fléché les genoux, il a pris l'eau, il a lavé les pieds sales, 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 tout en sachant, ça c'est le gars qui va me trahir tantôt. Il savait, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi en retour? Il va me trahir. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il l'a servi comme il a servi les autres. Ça c'est la preuve suprême de l'amour, n'est-ce pas? Ça c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour qui dit, si tu me bénis, je vais te bénir. Vois-tu, Jésus a dit, si tu aimes ceux qui vous aiment, et je pense que je l'ai même mis dans vos notes ici, verset 44 du chapitre 5 de Matthieu. Mais moi, je vous dis, aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est un gars qui pratiquait qu'est-ce qu'il prêchait, n'est-ce pas? Il est en train de laver les pieds de Judas, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vois-tu, la preuve suprême de l'amour, c'est de ne pas se considérer être trop grand pour servir. La preuve suprême de l'amour, c'est d'être prêt à faire les tâches que personne d'autre veut faire. Et la preuve suprême de l'amour, c'est de servir tout le monde, même ceux qui sont dans l'impossibilité de nous bénir en retour. On sert parce qu'on les aime, peu importe qu'est-ce qu'ils vont nous faire en retour, même si on sait qu'ils vont nous faire mal. Attention, je n'ai pas dit, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, « Bon, est-ce qu'il faut que je reste dans une relation malsaine avec un ami, par exemple, qui va toujours abuser et prendre... » Non. Est-ce que j'ai toujours besoin de donner mon argent, qu'est-ce que j'avais besoin pour vivre, à quelqu'un qui ne veut pas travailler? Non, on ne parle pas de ça. OK? Il y a quand même un équilibre. Mais qu'est-ce qu'on parle? C'est notre attitude envers ces personnes. Notre attitude devrait être une attitude d'amour. On les aime et on les sert comme Christ a servi les disciples. On se lave les pieds les uns les autres. Amen? Alléluia. Tania, est-ce que tu peux venir jouer? On va ce matin prendre juste un temps de réfléchir, juste quelques minutes. Et en fait, nous allons servir le repas du Seigneur. Et je pense que ça serait un bon temps de sonder notre cœur. Quand Jésus a lavé les pieds des disciples, c'était juste avant la Pâque. Donc, on voit, ils venaient de prendre le repas ensemble. Et aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur et on va penser à cette preuve suprême de l'amour. Qu'est-ce que Jésus a fait pour ses disciples? Tout en sachant que Jésus a dit, « Maintenant que vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition que vous les mettez en pratique. » Amen. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que vous sachiez déjà qu'il faut s'humilier et jamais être trop grand pour servir. Vous savez qu'il faut être prêt à faire n'importe quelle tâche, même les tâches que personne d'autre veut faire. Et il faut aussi être prêt à servir tout le monde, pas juste ceux qui peuvent nous bénir en retour. Ça, c'est la preuve suprême de l'amour. Dieu veut qu'on se serve les uns les autres. Et il y a des multitudes des gens qui ont besoin d'être servis. Moi, je viens de recevoir un livre qu'un bon ami à moi, quelqu'un que je connais depuis mon adolescence, il est aussi pasteur aujourd'hui. Il vient tout juste de devenir pasteur au Missouri. Il vient de m'envoyer un livre. Et en anglais, le titre, c'est « Conspiracy of Kindness ». C'est une... Comment est-ce qu'on dit « conspiracy » C'est comme une conspiration de la bonté. Et dans ce livre, je ne l'ai pas encore lu au complet, mais il y a des choses que j'ai entendu parler. Mais c'est exemple après exemple de comment les églises et les individus ont gagné leur communauté à Christ juste en servant les besoins de la communauté. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si le monde voit l'Église qui marche dans l'amour, qui est en train de se laver les pieds les uns les autres et qui est en train de aussi servir les besoins de notre communauté, que ce soit quelque chose d'aussi simple que quand nous ouvrons notre café, librairie, on aimerait avoir quelques petites tables à l'extérieur avec les parasols, quand les gens passent sur les patins, quand les gens passent sur les vélos, sur la piste cyclable qui est juste là, on pourrait les offrir les bouteilles d'eau gratuites à l'occasion, avec un message d'amour. Amen. Savez-vous, tout le monde pense, oh, les églises, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Mais ça serait peut-être une bonne idée de commencer à donner des choses aux gens aussi. Donner. Savez-vous, ça pourrait changer le cœur, changer la vie. Il y a toutes sortes de choses que le Seigneur peut nous donner les idées pour qu'on puisse servir les besoins de notre entourage. Mais avant de servir les besoins de l'entourage, on a besoin de prendre une décision de s'aimer les uns les autres à l'intérieur de l'Église aussi. Pour que quand les gens rentrent au milieu de nous, ils vont reconnaître tout de suite, « Wow! Il y a une atmosphère qui est différente ici. C'est pas comme ailleurs. Il y a vraiment une intimité. Il y a de l'amour entre ces gens. Je le ressens. Je le vois. Je vois dans la façon qu'ils s'entraident, la façon qu'ils se parlent. Ils se critiquent pas. Ils parlent pas dans le dos des autres. Mais ils sont là pour se donner un coup de main. Comme l'autre jour, il y a quelqu'un qui avait une auto qui est tombée en panne ici sur le stationnement. C'était beau de voir plusieurs frères dans le Seigneur qui sont allés aider la personne à partir le char. Voici, c'est comme normal. On devrait faire les choses de même. Amen. Mais ce matin, on va se lever debout. Et si je peux avoir quelques personnes pour aider à servir les éléments pour le repas du Seigneur, juste avant de prendre le repas du Seigneur, on va faire une prière et j'aimerais que tout le monde, sauf ceux qui sont en train de servir, que tous les autres dans la salle puissent fermer les yeux pour un instant. Avant de prendre le repas du Seigneur, vous savez que Jésus nous a donné le commandement de faire ceci en mémoire de lui-même. Le pain qu'on va manger représente son corps, le jus qu'on va boire représente son sang. Ça représente l'alliance que nous avons avec Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartient. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a nous appartient. Nous sommes en alliance avec lui. Mais peut-être il y a quelqu'un ici présent ce matin que vous n'êtes pas sûr à 100% d'être en alliance avec Dieu. Vous ne savez pas à 100% si vous avez une place réservée pour vous au ciel ou non. Vous n'êtes pas certain que votre nom est écrit dans le livre de vie. Si c'est le cas, j'aimerais vous donner cette occasion comme je donne à chaque dimanche. S'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, je veux que tu pries avec moi parce que je veux donner ma vie à Jésus. » La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, j'ai besoin d'être sauvé de mes péchés? Juste lever la main. Sinon, la Bible dit que chaque personne est supposée de juger son propre cœur, de se juger soi-même. Et ensuite, on peut prendre Dieu et le pain qui représente le sang et le corps de Jésus. Donc, si les personnes peuvent commencer à servir ces éléments, je vous demande de prendre ces éléments, de les tenir dans vos mains, et on va tous manger ensemble.